Il est 8h18 sur Europe 1, l'heure de l'interview politique. Pierre Devineau, ce matin, vous recevez la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Vous prenez de l'homéopathie ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Parfois, j'en donne à mes enfants quand il faut leur faire un petit soin ou câlin.
Et oui. Le fait que ça soit déremboursé, ça vous fait ni chaud ni froid ?
Moi, je pense que c'est important que dans notre pays, on remette la science dans la décision publique.
C'est-à-dire ?
Je pense que ce qu'a fait Agnès Buzyn, c'est-à-dire de faire confiance à la Haute Autorité de Santé, de demander à ce qu'on fasse un bilan des études scientifiques, et donc d'arriver à la conclusion qu'il était tout à fait possible de continuer à acheter de l'homéopathie, mais qu'elle ne devait plus bénéficier du remboursement, je pense que c'est une façon de remettre de la science et de la rationalité dans notre décision.
Le fait que
publique.
Les laboratoires Boiron, qui est une excellence française, doivent peut-être être obligés de licencier un millier d'emplois, ça...
Je crois qu'il ne faut pas faire forcément un lien entre l'utilisation qu'en feront les Français et le remboursement. Je pense qu'il y a des Français qui continueront parce qu'ils souhaitent acheter des médicaments ou des produits homéopathiques, ils continueront à le faire, simplement que ce ne sera pas assis sur la solidarité nationale et sur les impôts des Français.
Le feuilleton des ce qu'on appelle les top jobs, les postes clés au sein de l'Union européenne a duré longtemps et c'est pas fini puisque dans une semaine le Parlement votera pour ou contre Ursula von der Leyen. Ça veut dire qu'on peut repartir pour un tour ?
Ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, en fait, il faut qu'on arrive à faire que le projet sur lequel les chefs d'État et de gouvernement sont mis d'accord, le projet sur lequel les groupes politiques au Parlement européen se travaillent, puisse être repris par Ursula von der Leyen. C'est pour ça qu'elle rencontre tout le monde, pas pour magouiller, pas pour offrir des postes.
Pas pour se faire aimer, parce qu'il paraît qu'elle n'est pas très aimée, en fait.
C'est pas une question d'amour, vous savez, c'est une question de projet. Est-ce que ce qu'elle va dire...
L'incarnation, c'est quand même beaucoup une question d'amour. Il y a l'amour politique, et vous savez de quoi je parle.
Oui, c'est qu'est-ce qu'elle va dire mercredi, mardi matin qui va permettre que les différents partis politiques, les différents groupes politiques retrouvent le projet qui est le leur, qui sont les priorités que les citoyens ont notamment fixées lors des élections du 26 mai dernier, et donc s'assurer au fond qu'on marche en ligne, que ce qu'ont dit les chefs d'État, que la priorité climatique, que la priorité sociale, que la priorité de protection, de défense et également sur les migrations, que la priorité d'avoir une voix forte dans le monde, eh bien, ce soit repris dans son discours, que les députés européens retrouvent aussi dans son discours ce sur quoi ils se sont mis d'accord, et qu'au fond, elle ait une cohérence entre le projet du Parlement, le projet du Conseil et sa feuille de route à elle.
Et on marche tous ensemble, y compris avec la droite nationaliste qui aujourd'hui espère obtenir des postes clés au Parlement européen.
Je crois que les parlementaires européens, et j'en suis même certaine, ont mis une forme de barrière sanitaire, de ligne
sanitaire.
Rouge. C'est comme ça qu'ils le disent, en disant il faut qu'on soit clair. On ne peut pas être nous des forces pro-européennes et parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble, au fond, laisser ceux qui veulent déconstruire l'Europe arriver à prendre des postes de responsabilité. Donc, ils s'organisent. Vous savez que le Parlement européen, c'est 751 députés. C'est une matrice compliquée parce qu'il y a des gens qui ont à la fois une étiquette nationale et une étiquette de parti. Et donc, il y a beaucoup de mécaniques assez complexes à suivre. Mais il en reste qu'à la fin, les choses sont assez claires.
Et on ne veut pas d'eurosceptiques même pour le dialogue, pour la démocratie européenne.
Personne n'est interdit de parler. Mais les quatre groupes politiques pro-européens travaillent
pas
ensemble.
Les top jobs.
Travaillent ensemble, ils ont des responsabilités dans les commissions, ils ont des responsabilités au Parlement, ils travaillent ensemble sur une feuille de route, une forme de projet de coalition, pas pour se mettre d'accord sur tout, pas pour revenir au plus petit dénominateur commun.
Donc vous approuvez cette barrière sanitaire comme ils disent ?
Moi je pense qu'il faut qu'au Parlement européen les choses soient claires. Il y a ceux qui veulent que l'Europe progresse.
Donc vous approuvez ?
Je l'approuve parce que je pense qu'il y a ceux qui clairement disent elle veut comprendre, et puis il y en a d'autres, vous savez, ils vont au Parlement européen. Soit ils ne se lèvent pas pendant l'hymne à la joie, soit ils tournent le dos. Bon, mais il faut être clair.
Ça vous choque.
Ça veut dire qu'il y a ceux qui veulent que ça avance, puis ceux qui veulent que ça avance pas.
Amélie de Montchalin, où en est-on du couple franco-allemand avec une Angela Merkel, on l'a vu, fragilisée politiquement en tout cas. C'est un peu Emmanuel Macron maintenant qui mène la barque tout seul dans ce couple.
Vous savez, le couple franco-allemand, il a vécu des épisodes où, parce qu'il y avait des temporalités politiques intérieures différentes, il marchait de manière parfois pas exactement symétrique. Nous, en France, on est au milieu du quinquennat. En Allemagne, on voit que, effectivement, la coalition, on le voit par des élections locales, parfois est remise en cause. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite quoi que ce soit, et d'ailleurs, ce n'est pas notre rôle. J'observe juste deux choses. La première, c'est que sur des projets concrets, le budget de la zone euro, l'Europe des batteries, la défense.
On est d'accord.
On continue de faire des choses très concrètement. La semaine dernière, on a ratifié au Sénat le traité d'Aix-la-Chapelle. Le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est des projets très concrets. C'est le moment où on commence à converger avec l'Allemagne sur des choses qui nous sont bénéfiques et qui sont bénéfiques également au peuple allemand, au territoire allemand et à l'emploi, à notre industrie en commun. Donc, on fait des choses concrètes. Après, est-ce que politiquement, on est au même stade, vous voyez, de notre... Pas du tout, les agendas politiques intérieurs sont différents.
Et moi, ça peut changer
dans
le futur.
Moi, ce qui compte pour moi, c'est que on fasse pas des grands discours de concept. Est-ce que l'amitié, elle est très bonne? Est-ce qu'elle est... C'est pas ça l'intérêt.
On va au-delà de l'image d'Helmut Kohl avec François Mitterrand, on arrête et on avance.
Non, mais si on s'arrête aux photos, ça peut être intéressant, porte symboliquement des choses. Ce qu'il faut, c'est que concrètement, la France et l'Allemagne puissent proposer des choses en Europe, qu'on propose et qu'on rassemble.
Alors,
sur le climat, par exemple, l'Allemagne, au départ, n'était pas dans la coalition de ceux qui proposaient que la neutralité carbone soit atteinte en 2050. Angela Merkel a rejoint la coalition, ce qui fait qu'au départ, il y avait 4 pays autour de la France. Au milieu, on était 15 et à la fin, on finit à 24. Et le fait que l'Allemagne se mette dans le mouvement, eh ben ça change la donne et là-dessus, on avance. Et maintenant, la chancelière est l'une de celles qui est plus motivée sur ce sujet.
Autre dossier sensible, les Européens se retrouvent à devoir trancher dans le dossier du nucléaire iranien. Les observateurs disent qu'on marche sur des œufs, qu'on essaye de gagner du temps. Où est-ce qu'on va exactement dans ce dossier ?
La priorité, c'est la désescalade. C'est s'assurer qu'on ne marche pas sur une ligne dangereuse où, par accident, on se retrouve avec, au fond, des militaires qui reprennent la voie du dialogue. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a envoyé son conseiller diplomatique en Iran. On essaye de faire en sorte que le triangle, si je peux dire, Europe, États-Unis, Iran, soit un triangle où on se parle. Aujourd'hui, les Iraniens, ils voient bien le risque aussi de finalement poursuivre dans une direction qui les amènera à s'isoler. Ils voient bien le risque que même économiquement, cet isolement aura d'énormes conséquences sur la vie quotidienne des Iraniens dont ils ont la responsabilité.
C'est déjà le cas. Il y a pas mal d'entreprises françaises notamment qui ont claqué la porte parce qu'il fallait entre guillemets obéir aux injonctions
de
M. Trump.
Aujourd'hui, parce qu'ils respectaient l'accord de Vienne, parce que les Européens leur faisaient confiance dans le respect de l'accord de Vienne, on continuait de pouvoir avoir des échanges avec eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la ligne de crête sur laquelle on marche, c'est qu'on aimerait qu'effectivement, du côté américain, il y ait une forme de désescalade, et du côté iranien, eh bien, il réentre dans le respect de l'accord de Vienne. On y travaille, on est extrêmement attentif. Jean-Yves Le Drian l'a dit hier, notamment. La situation est dangereuse. Et donc, il faut, dans ces situations de danger, être extrêmement prudent.
L'agriculture, c'est un autre sujet avec l'éternel PAC, la politique agricole commune, dont le but était de nourrir, on s'en souvient, les populations après-guerre. N'est-il pas temps de changer de modèle? Est-ce qu'il ne faut pas une nouvelle PAC, une nouvelle réorganisation, j'allais dire presque un nouveau business model en 2021?
Alors, moi, je viens d'une famille agricole et je peux vous dire qu'il est essentiel que l'agriculture se transforme.
Ouais.
Les agriculteurs le souhaitent, mais ils ne vont pas se transformer sans argent. Et donc, c'est pour ça que je me bats aussi pour que le budget de la PAC soit à la même hauteur que ce qu'il était auparavant, pas pour faire la même chose, mais bien pour accompagner les agriculteurs.
Pour accompagner les plus gros agriculteurs, puisque c'est un peu ça le sens aujourd'hui.
On peut toujours accompagner les... Alors, on veut mettre, vous savez, un plafond pour qu'au-dessus de 100 000 euros par an, on considère qu'ensuite, vous avez a priori par vous-même des revenus, donc vous n'avez plus besoin de la solidarité de la politique agricole commune. En revanche, on est très clair sur le fait qu'il faut soutenir les agriculteurs pour que, si on leur demande de se transformer dans leurs pratiques agricoles, dans le fait qu'il y ait moins de pesticides, dans le fait qu'on leur demande aussi de diversifier au fond leur production pour être moins sensible aux aléas climatiques.
Et vous allez être écouté sur ces sujets-là ?
Mais on est écouté. On a deux propositions nous très claires. Un, on voudrait que 40% du budget de la PAC soit un budget de transformation, notamment en lien avec l'environnement. Aujourd'hui, on est arrivé
de l'agroécologie.
Et surtout faire en sorte que la méthanisation, c'est extrêmement bon pour l'environnement, c'est un vrai investissement pour les agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont tous les moyens pour y arriver? On n'est pas sûr. Qu'on puisse regarder aussi la question de la constitution des filières. On parle beaucoup de circuits courts, mais si les agriculteurs n'ont pas de filières pour transformer leurs produits, c'est un beau concept, ça ne marche pas. Donc, on a travaillé aussi avec les coopératives sur l'innovation, sur la recherche. Donc, bien sûr qu'on veut autant d'argent dans la PAC, pas pour faire la même chose, mais pour vraiment aider les agriculteurs de toute l'Europe à se transformer. Et puis, il y a un point important.
Rapidement.
50% des agriculteurs dans toute l'Europe partiront à la retraite d'ici 2025. Donc on a un énorme enjeu aussi d'attractivité, d'installation de jeunes agriculteurs. Et là-dessus, notamment la Banque Européenne d'Investissement a un grand projet. Et je pense que c'est des sujets essentiels, bien concrets, qui montrent que l'Europe, elle peut travailler, non pas seulement dans les discours, mais bien dans la réalité des Français au quotidien.
Dernière question, avec une réponse courte, s'il vous plaît. Désolé, le temps nous poursuit, Amélie de Montchalin. On quitte l'Europe pour Paris, avec les hommes en lice pour la municipale au sein de l'AREM. Vous roulez pour qui? Pour Cédric Villani?
Moi, je ne roule que pour celui qui pourra avoir un projet le plus cohérent, le plus convaincant. Et surtout, je pense qu'il est essentiel que nous ne fassions pas de primaire. Trop de partis se sont abîmés à se batailler.
Donc vous êtes contre ce qui se passe en ce moment, ce choix?
Mais aujourd'hui, il n'y a pas de primaire. Aujourd'hui, ce n'est pas une élection sur la base. Aujourd'hui, ils ont présenté un projet.
Ouais.
On a fait confiance à une commission nationale d'investiture pour leur poser des questions précises. Je crois d'ailleurs que les retours de Benjamin Griveaux et Cédric Villani, qui ont tous les deux en fait une personnalité, une façon d'approcher le sujet différente.
Excite Hugues Granson.
et Hugues-Rançon, bien sûr, mais aujourd'hui, je pense que c'est surtout entre
Cédric Villani et Benjamin Griveaux
que vous me posiez la question. Entre, en tout cas, les trois qui ont présenté.
Votre cœur balance entre les deux.
C'est pas moi, je suis pas membre de la commission d'investiture. Et ce que je sais.
Vous êtes
c'est
une proche du président.
Si on s'abîme dans une primaire, alors en général, on a abîmé la dynamique de campagne et surtout la capacité à rassembler après.
Merci beaucoup, Amélie de Montchalin, d'avoir été l'invitée politique aujourd'hui d'Europe 1.
C'était l'interview politique d'Europe 1.